Scrabble! Bien joué, Jean-François. Camembert jaune.
Non, mais là, on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça, on sera tranquille, on aura de la marge.
S'il te plaît, les échecs demandent beaucoup de concentration. Hein? Ça, on joue pas aux petits chevaux, là. Là, c'est la cour des grands, là.
Olivier Mine, c'est la carte mystère.
Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens.
Veuillez m'excuser. Cette dernière main a failli me tuer.
C'est un sort, Will!
Je sais pas quoi faire!
Balance-lui une boule de feu, que je fasse au minimum
13! Non, c'est trop risqué!
Vous entrez dans le mystérieux club des platistes. Ici, on est obligé de s'amuser. Les rabat-joies ne sont pas les bienvenus. Nous nous réunissons tous les deuxièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, sur Prune. Tous les mystères de l'univers du jeu de société vous seront révélés. Vous découvrirez les nouvelles sorties, l'histoire d'un jeu de société et les plus noirs secrets du business ludique. À vous de jouer.
Bonjour Prune, bonjour chère équipe, et quand je parle d'équipe, je parle de Cyrielle.
Bonjour.
Antoine.
Bonjour.
Azilis.
Bonjour.
Gildwen.
Bonjour.
Et Brian, aujourd'hui à la technique. Tu nous as pas dit bonjour Brian.
Il a dit aïe.
Ah, ok, pardon. Monsieur est bilingue. Avant-dernière émission ensemble, quoi de mieux que de l'aborder avec agressivité, avec violence. C'est en effet le thème du jour. Vous êtes le maillon faible. Je présente cette émission aujourd'hui. Je me suis demandé si je devais tous très mal vous parler ou insérer des petites insultes pour être plus raccord. Mais je suis si gentille, impossible pour moi de dire merde à la place de flûte et de ne pas dire mince à la place de nictarum, fils de chien. Et puis, cette émission, ce n'est pas juste de la violence. C'est aussi des liens avec l'histoire, une partie qui sera présentée par Azilis, des jeux de guerre autour d'une table où on est très calme et concentré, on t'attend Gildwen sur ça, et puis d'autres choses un peu plus dramatiques malheureusement, qu'on abordera notamment sous forme de discussion avec Cyrielle. Avant toute chose, et parce que c'est notre petite signature, je vous laisse réfléchir avec Brian à l'énigme du jour.
Alors, l'énigme du jour, est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
À ma naissance, j'étais muet. J'ai commencé à parler à 40 ans. Qui suis-je ?
À ma naissance, j'étais muet. J'ai commencé à parler à l'âge de 40
ans. Le cinéma.
Eh oui, c'est le
cinéma. Mais quoi ? Non, mais c'est rien !
Mais on n'a même pas le temps de réfléchir, on n'a même pas le temps de faire une émission.
Heureusement, on a même
pas... Ça y est,
il a une deuxième énigme.
Dans un mois.
Ouais, il faut une deuxième énigme parce que sinon, c'est sûr qu'il a gagné le tournoi.
Mais ouais, normalement, tu dois faire semblant et au moins attendre.
Ouais, j'ai pas envie de faire semblant.
Ah non, il a.
Ah non, il est
un peu violent.
C'est très violent.
C'était la violence, j'ai jeté mes cartes tout de suite, pas de politesse.
Révèle pas les ficelles de l'émission, Annelise.
Pour la deuxième énigme, donc on gardera la réponse pour la fin de l'émission parce que j'en ai pas d'autres.
Faut bâillonner, Gildwell.
Alors, il est 7h du matin. Quelqu'un frappe à la porte. Derrière la porte se trouvent tes parents qui sont venus prendre le petit déjeuner. Dans ton frigo, il y a du pain, une bouteille de lait à moitié vide, une barquette de beurre et un pot de confiture neuf. Que vas-tu ouvrir en premier ?
C'est trop long.
Ah, si, j'ai la réponse.
Ah bon ? J'ai la réponse.
Eh ben, on attendra la fin, on baisse les mains.
J'ai la réponse.
J'espère que c'est Cyril qui va dire la réponse.
C'est la fin de l'énigme.
Impeccable, merci pour les nœuds dans le cerveau, parce que moi je n'ai pas la réponse, je me souviens même pas de ce qu'il y a dans son frigo. Alors restez encore un petit peu avec moi avant que je cède le micro, je vais vous parler d'une éternelle question qui divise, qui mêle science et expérience, les jeux nous poussent-ils à la violence ? J'ai fait deux rimes, c'est beau. Je l'avais anticipé, beaucoup d'articles sont rédigés sur cette question mais en abordant le jeu vidéo. En effet, le jeu vidéo, c'est, dans notre esprit, beaucoup de tirs à la première personne, des gens écrasés sur la route, des bagarres nécessaires pour continuer l'aventure, etc. Le jeu de société, lui, s'imagine bien moins violent, beaucoup plus social. C'est pourquoi dans cette émission, on se frotte à d'autres types de jeux aux frontières de celui de société. Vous allez le voir bientôt, on peut jouer avec des armes en main, on peut jouer avec des enjeux extrêmement concrets aux tournures très violentes, on peut jouer dangereusement. C'est rigolo, entre guillemets, à l'heure où je prépare cette émission, donc pas maintenant mais quand je la préparais, je viens de passer le week-end avec ma sœur, qui adore écouter des podcasts de crimes et des émissions d'enquête. Les docu Netflix sur les cannibales et les serial killers, elle se les enfile, en faisant la cuisine, pour s'endormir, au sport, etc. Et elle est loin d'être la seule. On s'est posé la question toutes les deux de savoir si ça n'agissait pas comme catharsis, envisager le pire, entendre l'horreur, se représenter l'effroyable pour décharger la peur, canaliser ses émotions. Pourquoi pas, après tout ? D'ailleurs, c'est un peu, je crois, ce que Vanessa Lalo, psychologue clinicienne et spécialiste des pratiques numériques, dit en parlant des jeux vidéo comme d'un défouloir. Elle nous dit également sur France Culture dans l'émission Les Idées Claires que les jeux vidéo peuvent devenir un exutoire, un moyen de gagner en estime de soi et de se lier à d'autres personnes, ce qui va, je cite, « potentiellement faire baisser justement l'agressivité ou la violence des individus ». On a d'ailleurs trouvé des corrélations aux États-Unis entre la baisse de criminalité et la sortie de jeux vidéo violents. Elle dit aussi quelque chose que je trouve intéressant et qu'on peut lier plus facilement aux jeux de société, c'est que le côté compétitif d'un jeu, que ce soit Candy Crush ou le Uno, peuvent créer une agressivité latente, une frustration, sans qu'un passage à l'acte violent ne soit démontré. Ça me parle plus, ça tient. Il n'y a qu'à voir notre comportement d'adulte quand on perd, le challenge qu'on accepte lors d'une partie revanche, la performance aussi lors d'un jeu stratégique. On laisse gagner les enfants pour qu'ils prennent confiance et plaisir, mais aussi, on les fait perdre parfois, pour leur apprendre justement la frustration. Confiance et plaisir, c'est ainsi qu'on va aborder le jeu proposé par Antoine, qui ne sera peut-être pas si d'accord avec ces termes. Un jeu de Ludovic Maublanc appelé Cash and Guns, que je laisse à Antoine le soin de présenter.
Let's play.
Here we go!
Avant toute chose, je tiens à préciser à notre auditoire que j'ai actuellement 4 pistolets collés sur ma tempe. Je crains pour ma sécurité.
Je tiens à vous dire que quand je parlais également, c'était pas facile.
Ça va être une émission très violente.
Oui, donc Cash and Gun par Ludovic Maublanc, illustré par Gérard Mathieu. Nous, on joue à la première édition qui n'existe plus, hein, puisque maintenant il y a une seconde ou une troisième, seconde édition. C'est un peu le même principe du jeu, mais évidemment, il y a des petites améliorations. Alors, on va jouer. Nous sommes des gangsters.
Youpi.
Nous avons réuni un butin lors de notre dernier braquage. Et donc, on a chacun un personnage. On a Huggy.
Oui, c'est moi.
Igor.
Bonjour.
El Toro.
Bonjour.
Lotus.
C'est moi.
Et moi-même, Tino, qui sera votre parrain. Voilà.
Entendu.
Donc, pour faciliter les négociations, chaque gangster est venu armé.
C'est normal.
C'est plus simple.
Moi,
comme
je parle
ça.
Toujours comme ça.
Je vois sur ma carte que je suis censé ranger mon flingue dans mon pantalon. Je dois le faire là aussi.
Ah, non, évidemment.
Je ne porte pas de pantalon.
Bon.
Elle porte pas de pantalon.
L'émission sur le sexe, c'est le mois prochain.
On n'est pas tout dit.
Vous avez lié à votre personnage 8 cartes. Cartes.
Oui, exactement. Ah.
Donc, ces cartes-là, vous avez des cartes clic, 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 clic. Il y en a 5.
Okay.
Clic, 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 ça veut dire que votre pistolet s'est enrayé et vous tirerez à vide ou vous ne tirerez pas.
Okay,
vous avez 2 cartes bang, comme son nom l'indique, vous ferez feu sur quelqu'un. Et il y a une carte bang, bang, bang. Alors cette carte bang, 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 elle est intéressante parce qu'au moment où on retournera tous nos cartes, cette carte-là aura un peu l'initiative. C'est-à-dire que si quelqu'un a mis la carte bang, 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 il tire en premier, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, mais on n'en a qu'une puisqu'on va se défausser chaque fois d'une carte et on ne pourra plus la récupérer. Donc on a 8 cartes à utiliser tout au long du jeu.
Okay.
Donc il y a un petit peu de bluff à faire. Je retourne au début de la partie des billets. Nous avons 5 billets à nous partager. Un billet de 10 000 $, un billet de 5 000 $, un autre billet de 10 000 $, un billet de 20 000 $ et un autre billet de 10 000 $.
Jolie casse.
Voilà, nous allons nous partager ça. Et maintenant, chacun va choisir dans son tas de cartes quelle carte il va utiliser. Est-ce qu'il va prendre une bang, 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 une bang
Mais
ou
pour
clic,
quel
clic,
enjeu,
clic
du coup?
Eh bien, à un moment donné, je vais vous dire 1, 2, 3. Et là, on braque le joueur. Voilà, on pointe notre pistolet sur le joueur que l'on veut braquer. Donc,
intérêt du coup de choisir clic, clic, clic?
Tu verras.
Il faut s'en débarrasser, j'imagine.
Le but, c'est de s'en débarrasser, puisque après, une fois qu'on aura braqué notre pistolet, tu peux choisir soit de rester encore dans la partie, soit de te coucher. Si tu te couches, il ne peut rien t'arriver. Même si quelqu'un a utilisé une carte bang ou bang, 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 il ne peut rien t'arriver. Juste, on te donne un marqueur honte, parce que tu t'es couché quand même.
Ok, c'est la honte.
Et tu perdras 5 000 $ en fin de partie par nombre de marqueurs.
Et après, tu peux te relever?
Eh bien, au deuxième tour, tu te relèves. Voilà.
En fait, tu t'es caché, quoi.
Tu t'es un peu caché, c'est ça. Et ensuite, on résolvera, en fonction de tous ceux et celles qui sont encore debout, tout le monde va retourner sa carte et on verra ce qui se passe. S'il y a un clic, 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 j'ai braqué mon pistolet sur Azilis, j'ai fait clic, 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 il ne se passe rien pour elle, d'accord ? Mais ouais. Si j'ai mis un bang, Azilis meurt. Enfin, meurt. T'as un bobo.
Ah, j'ai un bobo.
Tu prends un pansement.
Au bout de trois bobos.
Aussi, t'as mis un bang.
Eh ben, j'ai un bobo aussi. Et à ce moment-là, on se couche tous les deux.
Ouais.
Donc, on ne participe pas
au partage. Vous couchez tous les deux.
Brian rappelle.
C'est parce que j'ai pas de pantalon.
Mois prochain,
le sexe.
Un peu de patience.
Elles ont déjà enlevé leurs pantalons, c'est
vrai. Antoine, s'il te plaît.
Non, mais attends. Trois bobos, tu ne joues plus. Attention. Ok.
Donc, c'est un peu le poker, quoi. Yeah. C'est un peu bluff, poker. Tu fais peut-être semblant d'avoir fait un clic, mais en fait, on ne sait pas.
Ah ouais ?
Ouais. Peut-être semblant d'avoir fait un bang, mais on ne sait pas.
Putain, je comprends rien, mais je vais comprendre en route.
Oui,
et
ben
voilà, allons-y. Donc, moi, je vous dis 1, 2. Alors, non. D'abord, on va mettre une carte devant nous.
Bang. Ok, donc on choisit notre carte, bang, on la met devant nous.
Clic ou bang, bang, bang.
Tu fais une mise.
Ok.
Ensuite. Je vais dire 1, 2, 3, vous êtes prêts? Et à 3, on braque quelqu'un. 1, 2, 3.
Ça, c'est pour l'énigme, Gildouane.
Alors.
Oh ouais, j'ai envie de changer.
Comme vous l'avez compris, Azilis braque Gildouane. Gildouane braque Cyrielle. Cyrielle et moi-même braquons Annelise. Et Annelise, tu braques Gildouane. Ok? Donc là, vous pouvez soit vous coucher, soit vous rester en jeu. D'accord?
Je me couche pas.
Donc.
Personne me braque. Donc
Bah oui, voilà. Ceux qui sont pas braqués comme nous, on a plutôt intérêt à rester. Gildouane ou Lise, ça se réfléchit.
Ouais. Donc, ah ouais, j'en avais deux quand même. Bah, tu peux avoir deux bobos. Hein.
Ouais, deux bobos. D'un coup.
Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre l'intérêt. Mm-hmm. Non, moi je me couche pas. Ouais, je suis.
Alors attends, je vais compter à trois. Et à trois, tu diras si tu te couches ou pas. Si on se couche ou pas. Un, deux, trois.
Je me couche pas!
Non plus.
Okay. Personne ne se couche.
Personne se couche.
Non.
Ok. Alors maintenant, tout le monde va crier un cri de guerre ou corones. Ou tout autre cri de guerre qui donne du courage. Vous êtes prêts?
Et, ok.
Et au moment où on donne notre cri de guerre, on va découvrir notre carte.
Ok. Ouais.
Ouh, attention. Donc
je vais compter à 3 et à 3, on donne notre cri de guerre. 1, 2, 3.
Corones.
Ok. Alors.
Yes.
Donc, il y a une carte, bang, bang, bang.
Ah merde, je voulais pas mettre ça.
Bang,
donc,
bang, bang.
Ah, donc les deux bang, 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 c'est vraiment la surprise. Donc là, tu braquais qui? Gildouane.
Ouais.
Tu pourras pas jouer ce tour si tu te couches, Gildouane.
Je sais.
Parce que la carte bang, 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 un joueur touché par un bang, bang, bang est pris par surprise et ne pourra plus jouer ce tour-ci. Et tu te couches, Gildouane. Donc tu magnifique. Pourras même pas. Voilà. Et il y a un autre bang, bang,
oui,
bang.
Contre Annelise.
Donc Annelise, tu te couches aussi.
Tu parles trop.
Alors je sais pas comment on fait. Il y a deux bang, bang, bang d'un coup. Mais si tu te couches aussi.
Elle se couche aussi.
Tu c'est retenu, Cyrielle. Je vais zapper ta chronique.
Azilis avait mis un bang sur Gildouane. Mais du coup, il est déjà couché, il est déjà mort.
Oui,
donc,
ça sert à rien.
On peut pas avoir un bobo.
Non, on peut pas tirer sur les gens qui sont couchés.
Il y a un bobo quand même pour Annelise.
Ouais.
Et il y a un bobo pour Gildouane.
Moi, ça me fait rien, les bobos.
Voilà.
C'est pas grave.
C'est clair.
Moi, j'avais fait un clic, clic, clic. Et il se passe rien. Voilà. Donc maintenant, on doit partager le butin équitablement entre ceux qui restent. Alors, combien sommes-nous à rester? 3.
3. Vous êtes 3.
Et il y a 20 000 plus 30 000, 50 000, 55 000. Donc, équitablement...
On peut pas.
On peut pas.
Allez, 15, on peut juste 20 000, prendre, je prends 20 000.
On prend juste 10 000 chacun.
Bah, ou même 15 chacun, non?
Ben, on peut pas.
Ah oui, par rapport au billet. D'accord,
ouais.
Oui.
Donc, voilà, il y a 25 000
qui restent pour le prochain tour.
Ah, pourquoi pas? C'est pas précisé
je
dans la règle.
Je voulais juste mettre un bang, pas un bang, bang.
Non, on fait pas la monnaie. Donc, voilà. Non, on fait pas la monnaie. Okay. C'est marqué, c'est pas forcément que ça reste au prochain tour. Donc, là, j'enlève les deux billets qui sont là. Et je retire 3 nouveaux billets. Alors là, il y a 5000, 5000, 5000, 10000, 10000. Donc là, on joue quand même pour 35000. C'est un peu moins bien que tout à l'heure. Mais bon, voilà. On n'a pas le droit de réutiliser la carte qu'on vient de poser. Sinon, non. Tout le monde mettrait que des bang, bang, bang. Donc, c'est les cartes qu'on vient de poser, on les met un peu à côté pour que personne ne se rappelle de ce qu'on a posé. Des fois qu'on a oublié que tu as utilisé ton bang, bang, bang.
Entendu.
Et on reprend notre paquet de cartes.
Okay.
pour un deuxième tour de jeu. Et on choisit ce qu'on va mettre. 1, 2, 3. Alors, Annelise Braque Cyriel.
Bah ouais.
Gildouen Braque Azilis, Azilis Braque Cyriel et Cyriel Braque Gildouen. Et moi, je braque Azilis. Ouh, ça fait. Ok. 2, 2, 2. Non, personne me braque.
Non, c'est vrai, c'est... mais c'est parce que t'es le parrain.
Je suis le parrain. Personne n'attaque le parrain.
Bon, t'inquiète,
je t'en prie. Dans la nouvelle édition du jeu, on peut changer de parrain. Okay. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3 et s'il y en a qui veulent se coucher, ils peuvent se coucher à 3. D'ailleurs,
quelqu'un me braque ?
T'as pas relevé ton...
Non.
Voilà. Ah, personne ne me braque.
Faut que tu relèves ton El Toro, El Toro.
Ouais, oui. Que je puisse te tirer dessus. Espèce de vendeur d'énigmes.
1, 2, 3...
Coronas. Ah non, c'est pas ça.
Oui, il y a deux personnes qui se sont couchées.
Ah ouais.
Azilis et Gildouen.
Ah, c'est couché.
J'ai un petit pansement, ça me suffit. Hein.
Donc,
je suis pas couché.
On va compter. Je vais compter jusqu'à 3 et on va dire notre cri de guerre à 3. 1, 2, 3.
Coronas.
Mais quand on est couché, ouais, on ne montre pas la carte.
Non, ah bah vous ne montrez pas votre carte.
On ne saura pas ce que vous avez mis. Ah. Moi, j'ai perdu un bang contre toi, Azilis.
Oh, dommage.
Toi, t'avais fait un clic-clic-clic. Et Cyriel, t'avais
fait... J'avais fait un bang contre Gildouen et je peux même pas...
Ah, mince.
Bien joué, Gildouen.
Donc, tu as gâché un bang.
Ah, du coup, tu t'es couché et du coup, tu peux pas tuer personne.
On peut pas, mais on peut pas tirer sur quelqu'un qui est couché.
Ouais, ok. Donc, c'est quelqu'un qui est couché. Il est, voilà. Donc, qui est-ce qui reste en jeu encore ?
Moi.
On est 3.
Oui.
Donc là, c'est pareil. Il y a 3 billets de 5 000 et 2 billets de 10 000.
Mais ça ne peut pas être équitable. Il faut...
Ça ne peut jamais être équitable.
Non,
donc,
ça peut jamais être équitable.
On aurait chacun donner... et chacune...
10 000 chacun.
Bah, on n'a pas assez.
Si, on peut. Non, mais je peux donner 2 billets de 5
000. Ah oui, bah voilà.
Je peux faire ça.
Vous avez vu comment je vous aide, même couché au sol.
Sympa.
Ouais, bah parle pas trop, wesh.
Hop. Hop.
On est violents.
Donc, il y a 8 tours de jeu. Voilà, avec des pistolets en mousse, voilà, qui servent pour se viser.
T'as pas distribué la honte à ceux qui se sont couchés.
Et j'ai pas distribué la honte, c'est vrai. Donc il y en a 2 qui se sont couchés. Donc si on fait le bilan, Gildouen, tu termines avec un bobo et moins 5 000 $ sur ton compte en banque.
Oh là 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 là.
Il avait 0.
Mais je me réservais pour les 5 prochains tours.
Ouais. Azilis, toi t'es à 5 000 $.
10 000.
Moins 5 000.
Mais moins 5 000. Mais j'ai la honte.
Ouais, t'as la honte, tu t'es
non,
couché.
Non, t'as moins 5 000 avec la honte.
Bah oui, du coup, j'ai 5 000.
Cyriel, toi, tu es à.
Moins 20 000. 20 000, pardon.
À 20 000.
Non, on lui a donné les faux billets.
Moi aussi à 20 000. Et
à 10 000. Mise,
tu es à 10 000.
Voilà.
Il y a 8 tours de jeu.
Ouais.
À noter que dans l'édition là, qui est sortie plus récemment, parce que celle à laquelle on vient de jouer, elle est assez ancienne, mais la dernière édition peut avoir des diamants, avoir des tableaux, voilà. Des choses comme ça. Voilà, c'était Cash and Gun, donc Ludovic Beaublanc, illustré par Gérard Mathieu, cool. Édité par Repos Productions.
Et merci à Yannick qui nous a passé le jeu.
Oui, merci Yannick.
On t'aime de tout notre cœur.
Ah oui, quand même.
Le Club des Platistes sur Prune, 92 FM.
Merci Yannick, merci Antoine. Puisqu'on a joué aux limites de l'acceptable, je vous propose d'en savoir plus sur ceux qui sont passés de l'autre côté du politiquement correct et qui en ont subi les frais avec la chronique C'est le game de Brian.
C'est le game.
Alors en effet, j'ai fait mes petites recherches et il se trouve qu'il y a plusieurs jeux qui ont été interdits à la vente pour différentes raisons et des raisons plutôt évidentes pour la plupart. Donc plusieurs thèmes, la guerre, le terrorisme, les armes à feu, la défiance de l'autorité, le racisme, les droits d'auteur et les serial killers, que des thèmes assez sympas. Je voulais choisir quel thème vous plaît le plus.
Bah la défiance de l'autorité.
La défiance de l'autorité, que j'ai aussi appelé le jeu sans doute le moins aimé de Darmanin. Donc publié en 2006, Art an der Grenze, qu'on va traduire par « Juste à la frontière », est un jeu sur la contrebande de marchandises à travers la frontière. Les joueurs jouent à tour de rôle le rôle du shérif frontalier essayant d'attraper les autres joueurs en flagrant délit de contrebande. C'est un jeu impliquant beaucoup de bluffs et ça devient assez idiot, ce qui en fait un super jeu de société à jouer avec des amis. Mais Juste à la frontière a apparemment été interdit au Brésil. Les autorités ont fait valoir que le jeu pourrait encourager les enfants à défier l'autorité. Le jeu a été renommé Robin Hood en conservant les mêmes mécaniques de jeu. Donc moi, c'est le jeu que je vais vous présenter auquel j'ai le plus envie de jouer. Et j'aimerais vraiment inventer peut-être une version un peu à la française où il faudrait éviter les CRS avec comme à la clé une retraite anticipée à 63 ans, un truc comme ça.
Ouais.
Alors, quel autre thème vous plaisait parmi tous ceux que j'ai dit?
Il y avait quoi? Terrorisme, racisme. Bon, racisme, ça m'intéresse de voir ce qui a pu être fait.
Alors, racisme. Ghetto Police. Donc, Ghetto Police est un autre jeu de société manifestement offensant. C'est une version du Monopoly et il regorge de stéréotypes racistes, la plupart des joueurs le trouvant au mieux insipide. Donc, Hasbro, donc, qui a fait Monopoly, a poursuivi le créateur du jeu en raison de similitudes avec Monopoly. Le tribunal a accordé des dommages et intérêts de 400 000 dollars à Hasbro. De nombreux endroits refusent de le stocker en ligne, même d'occasion. Moi, je ne vois pas pourquoi.
On te reconnaît bien là.
Alors, il nous reste guerre, terrorisme, armes à feu, droit d'auteur et serial killer.
Bah, armes à feu, puisqu'on vient de jouer avec des armes.
Ah oui.
Alors, armes à feu. Assassin, ou aussi appelé killer, est un jeu de rôle. Les joueurs doivent tuer leurs adversaires. Le jeu se déroule en temps réel. Les joueurs reçoivent le nom d'un autre joueur et une sorte de pistolet à hélice, comme un pistolet à eau. Si le joueur tue leur cible, ils prennent la cible du joueur vaincu comme la leur et cela continue jusqu'à ce qu'il reste qu'un seul gagnant. C'est un jeu de société amusant qui peut prendre des jours. Assassin a été banni de plusieurs campus universitaires au fil des ans. Les équipes de sécurité du campus ont été prises dans certains accidents avec des étudiants prenant des pistolets à eau en classe. Et vu le nombre d'incidents à armes à feu aux États-Unis, on peut comprendre pourquoi les campus universitaires veulent éviter ce genre de jeu.
Oh, j'avoue.
Tu m'étonnes, quel enfer.
Alors, guerre, terrorisme.
Terrorisme.
Terrorisme. War on Terror est un jeu de société satirique publié en 2006. Inspiré de l'invasion de l'Irak, c'est un jeu de stratégie politique dans lequel les joueurs doivent contrôler un empire. Les joueurs doivent libérer, ou plutôt envahir, des pays pour y développer des villes ou des cités. Là où le gameplay devient particulièrement controversé, c'est l'aspect terrorisme. Les joueurs peuvent financer des groupes terroristes pour attaquer leurs adversaires, ce qui est évidemment un sujet sensible, mais surtout en 2006, lorsque le jeu a été publié pour la première fois, étant donné que les attentats de Londres de 2005 étaient encore très récents.
Et du coup, petite question, Brian, qui les refuse en fait?
Alors ça dépend justement des pays. Donc ouais. Y en a, ça va être le Brésil, d'autres ça va être plutôt États-Unis, Angleterre. Donc j'ai pas trouvé de jeux qui ont été interdits dans le monde. Ça dépend vraiment en fait des politiques de chaque pays.
Et à quel moment de la chaîne ça se fait interdire?
En général, c'est quand ça a déjà été mis en vente.
Ok.
Et vous allez voir sur un des jeux justement. Où à un moment donné, c'est la police qui venait retirer directement les jeux. Dans
c'est quoi ce jeu?
Oui.
Ouais, alors c'est lequel? Alors je vais continuer avec ceux qui restent. Alors pour le thème guerre, sorti en 1973, Escape from Colditz est un jeu de stratégie. Les joueurs peuvent choisir de jouer en tant qu'alliés, tentant de s'échapper du célèbre château, utilisé comme un camp de prisonniers de guerre en 1939. Ou ils peuvent rejoindre l'équipe allemande, essayant d'empêcher les autres joueurs de pouvoir s'échapper. Ouais. C'est chouette. Hein. Naturellement, Escape from Colditz a fait débat, en particulier en Allemagne. Le jeu original avait une croix gammée sur la boîte et le jeu était interdit pour cette raison. Mais les versions ultérieurement avaient un aigle impérial sur la boîte à la place et le jeu a été mis à jour et publié par Osprey Games en 2016.
Bah, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est quand ils ont un ancrage trop évident dans la réalité en fait.
Oui. Oui, alors ils mettent un aigle, ça va mieux.
C'est ça.
C'est un peu plus hors sol, quoi.
Ah, c'est clair. Alors, parlons droit d'auteur maintenant.
Ouais, le truc qui n'est pas très intéressant.
Alors, moi, je trouve ça assez marrant comme histoire. Pour un jeu qui s'appelle Quest of the Magic Ring. Ça vous fait sonner peut-être des cloches, déjà. Donc, le jeu Quest of the Magic Ring a été pris dans une bataille de droit d'auteur car il est basé sur, pas surprise, le Seigneur des Anneaux. Le jeu a un grand plateau de papier avec des joueurs lançant des dés pour se déplacer le long du chemin, s'engageant dans des combats et essayant de terminer leur quête. Il n'est pas surprenant que cela ait déclenché une réclamation pour droit d'auteur et donc les copies sont difficiles à trouver. Alors moi je trouve que les créateurs de jeux n'ont pas toutes les lumières au plafond parce que c'est bolos, ils ont quand même mis une illustration sur la boîte de jeu avec trois nains, un vieux magicien, un humain, un elfe et un nain. Et ils se sont dit, est-ce que ça va passer?
Ça passe.
Tranquille.
C'est beau la naïveté.
Alors, sinon, pour le jeu Serial Killer, donc sans surprise, Serial Killer, The Board Game, en a étonné plus d'un lors de sa première publication. Un jeu sombre et tordu, il implique des joueurs voyageant autour d'une carte des États-Unis, essayant de tuer des gens sans se faire prendre. ou au moins en évitant les États avec la peine de mort. Le jeu a été interdit au Canada. Ce n'est peut-être pas surprenant, étant donné le contenu très sombre. Alors, si vous voulez devenir serial killer en CDI, en stage ou même ami temps thérapeutique, ce jeu est fait pour vous. Et c'est tout en tout cas pour mes jeux censurés. Et je te repasse la main. Abise, pardon.
Ça fait deux fois, Brian. Je voulais juste dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Si, Azilis, si tu voulais nous parler d'Antifa qui avait été interdit à la vente en France cette fois.
Alors, je crois que ce n'était pas vraiment interdit à la vente, mais c'est que la FNAC l'avait retiré de ses rayons. Et là, c'était un jeu que je pense très bien, mais qui parle d'antifascisme et donc de lutte contre les fachos. Mais ça a fait un peu scandale et c'est pour ça que la FNAC s'est un peu protégée.
Oui, d'accord. Elle a préféré retirer. Entendu. Donc un exutoire pour les, jeux, les gens qui jouent, mais aussi pour les gens qui créent des jeux, apparemment que des gens qui en ont gros sur la patate, quoi.
Oh oui.
Alors tout de suite, on va se changer les idées avec la musique OCB de Billy the Kick. Comme mon pied brillait naze,
j'ai pris des allumettes,
je me suis cramé les doigts et
j'avais pas mes lunettes. OCB, oxycarto blindé. OCB,
fais tourner, fais tourner, fais tourner.
OCB, oxycarto blindé. OCB, c'est encore moi le dernier.
J'en prendrais bien une autre
pour la décontraction.
Il paraît que c'est bon
pour se faire un plan fion.
Zapata en prenait
pour sa révolution. OCB, aussi carton blindé. OCB,
fais tourner, fais tourner, fais tourner.
OCB, aussi carton blindé. OCB, c'est toujours moi derrière.
Je vais aller voir la voisine.
Elle fait une teuf.
Biaou, c'est radical.
Y avait plein de meufs.
Mais vers une heure du mat,
sont arrivés les keufs.
Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des histoires avec un petit H qui se mêlent à l'histoire avec un grand H, même du côté du jeu de société. C'est la partie de Azilis avec deux Z, bien que ça se prononce comme un S. Ne vous trompez pas, sinon elle ressort le flingue.
Je l'ai en main.
Nah.
Retrouvez le Club des Platistes en podcast sur prune.net.
Je vais vous parler de violences en masse, de milliers de morts, sur un plateau ou dans la réalité. Vous l'avez compris, je vais parler de guerre. On aime jouer à la guerre. D'ailleurs, il y a plein de jeux vidéo sur ce thème-là. Pour les jeux de société, c'est un peu moins fréquent, parce que souvent, c'est un public plus familial. Donc, ça va surtout être des gros jeux de stratégie pour adultes. Le premier de ces jeux de société, il a été créé par H.G. Wells, un écrivain de science-fiction. Et ce jeu s'appelait Little Wars, Petite Guerre. Il a été publié en 1913. C'était des règles de jeu pour livrer des batailles avec des soldats de plomb. Parce que vu que c'était un écrivain, il n'avait pas construit tout un plateau de jeu ou créé des cartes. C'était des règles qu'on utilisait avec ce qu'on avait sous la main. Il y avait des soldats à pied, des soldats à cheval et de l'artillerie, avec un jouet qui lance des projectiles. Et dans son livre, il y avait aussi toute une partie un peu philosophique sur la guerre. En fait, pour lui, ce jeu, ça devait servir de catharsis pour que les gens n'aient pas envie de faire la guerre en vrai. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a un instant, le jeu a été créé en 1913, donc visiblement les dirigeants européens n'ont pas beaucoup joué aux jeux de société. Par la suite, il y a d'autres jeux de guerre qui se sont développés. Dans la plupart de ces jeux, on retrouve les mécaniques de contrôle de territoire et d'affrontement. Ils ont des thèmes souvent historiques. À votre avis, quelle est la guerre qui est au centre de plein de jeux de société ?
On taffe 45 ?
Ouais, exactement. La plupart, c'est ça. Il y a Maquis, Mémoire 44, pour citer parmi les plus connus. Parfois, c'est d'autres guerres. Dans Successors, ça parle de la Grèce antique. Ou dans Saladin, ça parle des croisades avec les batailles de Hattin et Arsouf. Et c'est pas mal parce qu'on a un peu l'autre point de vue que le point de vue des gentils chrétiens. Ça peut aussi parler de guerre fictive, évidemment. Mais pour jouer à la guerre, le plus simple, c'est les jeux de figurines, dans lesquels on simule un combat avec des petites figurines qu'on peut aussi peindre soi-même. Les plus connus, c'est les Warhammer, qui ont été créés dans les années 80. Donc c'est dans un univers de fantasy avec des vampires et des ogres. Alors moi, je ne connais pas grand-chose aux jeux de figurines, mais quand on a été, je raconte tout le temps, quand on a été aux Utopiales avec Cyrielle, on a vu une salle où il n'y avait que des jeux de figurines. Et en fait, les jeux prenaient un peu toute la table, c'était très grand. Il y en avait un, c'était un village, un autre, c'était l'espace. Et on nous a expliqué qu'ils étaient à l'échelle. Par exemple, un centimètre sur la table, ça pouvait correspondre à un kilomètre en vrai. Donc du coup, ils utilisaient des mètres pour savoir de combien déplacer leurs figurines. Mais bon, les jeux, c'est pas que pour s'amuser. Hein. C'est Oula. Du sérieux aussi. Hein. M'obligez pas à reprendre mon flingue. Ça peut être utilisé dans un but militaire. En 1559, le comte Reinhard zu Solms a créé un des premiers jeux de stratégie militaire. C'était un jeu de cartes. Chaque carte, c'était une unité de combat et il fallait placer les cartes pour faire une formation militaire. Et puis ensuite, avec son partenaire, on devait débattre pour savoir qui avait la meilleure formation. Sauf que on voit bien comment avec un peu de mauvaise foi, on se mettait pas d'accord et ça pouvait en venir aux mains. Mais bon, l'idée d'utiliser le jeu pour réfléchir à la stratégie militaire a perduré. On a essayé pendant longtemps de modifier les échecs dans ce but-là, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Ce qui a vraiment révolutionné la stratégie militaire par le jeu, c'est le lieutenant Georg von Reiswitz, en 1810, qui a créé un jeu beaucoup plus réaliste, avec un plateau en trois dimensions, avec des collines, des rivières, des forêts. Là aussi, le jeu était à l'échelle, comme dans les jeux de figurines. Et il y avait un arbitre qui décidait de l'effet des attaques et de l'issue des combats. Le jeu s'appelait Kriegsspiel, jeu de guerre, hyper original. Et ensuite, son fils l'a amélioré et c'est devenu un outil central de la stratégie militaire prussienne. D'ailleurs, d'après les Prussiens, leur victoire contre la France en 1871, c'était en partie grâce au jeu. Ils disaient que les officiers auraient réagi plus rapidement parce qu'ils étaient bien entraînés avec le jeu de plateau. Donc ça a fait envie aux voisins, aux pays voisins. Et pendant la Première Guerre mondiale, c'est grâce au jeu que les Américains ont découvert que leurs navires pouvaient être attaqués de loin par les Britanniques, qui se sont adaptés en conséquence. C'est grâce au jeu que les Japonais ont choisi d'attaquer la Russie par surprise. Mais c'est pas non plus une boule de cristal, parce que parfois le jeu pouvait se tromper, notamment avec les Allemands. Est-ce que vous pouvez imaginer, le jeu avait prédit aux Allemands qu'ils battraient la France en combien de temps ? Pendant la Première Guerre mondiale. Ça a duré 4 ans en tout et le jeu était très optimiste. Non, encore moins.
Un an ?
Encore moins que ça.
J'avais entendu ce qu'avait dit.
Combien ?
2 mois ?
Quasiment, ouais, 6 semaines.
D'accord.
Grosse déception. Et pour autant, ils ont continué à l'utiliser parce que puisqu'ils ont perdu la guerre, ils n'avaient pas le droit ensuite de faire autant d'exercices militaires qu'ils le voulaient. Donc ils sont beaucoup entraînés avec le jeu, les nazis, ils sont beaucoup entraînés avec le jeu pour préparer la prochaine guerre mondiale. Donc on voit bien comment les jeux de société peuvent servir de réplique miniature de la guerre, mais ils peuvent aussi avoir un usage beaucoup plus original en temps de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le MI9, une branche des services secrets britanniques, a fait imprimer par Waddington's, le fabricant du Monopoly, des plans pour permettre aux prisonniers de guerre de s'échapper. Ainsi que des cartes d'Europe. En fait, Waddington, c'était une des seules entreprises qui proposait l'impression sur soie. Alors, pas les tatouages, l'impression sur la soie, le tissu. Et donc, du coup, ces cartes et ces plans imprimés sur la soie étaient dissimulés dans les boîtes de jeu et ensuite envoyés dans les camps de prisonniers en se faisant passer pour des organisations de charité. Le MI9 a aussi utilisé des jeux d'échecs, notamment. Et c'est même arrivé dans le camp de prisonniers de Claudite, je crois que c'est ça le nom que tu nous as dit tout à l'heure, Brian, qui est un camp très célèbre. ça doit être agréable d'être sauvé par un jeu de société. Vu comment l'ambiance était tendue tout à l'heure dans le studio, je regrette un peu de ne pas avoir caché un couteau dans un totem de Jungle Speed ou du cyanure dans un thé.
Ça va. Pour accompagner ces réflexions, ces anecdotes, c'est très intéressant, dis donc. Une musique de Boris Vian qui fend un petit peu le cœur, Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Nous sommes toujours dans la thématique « Jeu et guerre, jeu de guerre ou jeu dans la guerre ». Voici la petite histoire présentée par Gildouen qui nous parle cette semaine du jeu Risk.
La petite histoire.
Voilà, pour parler du jeu de guerre, j'ai choisi donc le jeu Risk. C'est un jeu qui a été créé par Albert Lamoris, cinéaste et réalisateur. Certains collectionneurs estiment sa création à 1950, avec une édition à compte d'auteur en 1955, mais sa première édition officielle date de 1957 en France par Miro Company sous le nom de La Conquête du Monde. Le but du jeu est donc très clair, conquérir le monde. Même si l'éditeur actuel est Parker, le principe ne change pas. Positionnez vos pions sur vos territoires, déplacez-les avec intelligence et tentez de vous emparer des territoires de vos adversaires pour réussir vos objectifs secrets. De nombreuses éditions existent. Napoléon, Europe, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Narnia, Game of Thrones, Marvel, 2210, on va dans le futur, Halo et Metal Gear Solid, entre autres. Mais malgré le principe de base et l'ambition du but du jeu, Risk n'est pas un jeu violent. En effet, il y a certes une dose de stratégie, dans la répartition de nos pions sur nos territoires et dans nos déplacements et dans le choix des territoires que nous attaquons, mes risques reposent surtout sur le hasard et la chance. Les territoires que nous piochons au début sont-ils isolés ou déjà un peu regroupés, ce qui rendra la défense plus facile s'ils sont groupés? Dans quelle proportion ces territoires correspondent-ils à d'autres missions ? Pour le joueur au début situé en Europe centrale ou en Asie de l'Ouest, s'il faut conquérir les Amériques, ça va être difficile de trouver le chemin. Et les combats se règlent par un lancer de dés. 3 pour l'attaquant, 2 ou 1 pour le défenseur, selon ses pions. Même si le jeu vieillit, la simplicité des règles permet une grande convivialité autour du plateau et il n'est pas utile d'être hyper concentré pour suivre les tours de jeu. Alors, piochez vos cartes, placez vos pions et bonne conquête du monde.
Et puis comme la violence ça existe pour de vrai, Cyriel aborde avec nous des jeux traumatisants pour lesquels on n'était pas trop pour, dans lesquels on a souffert et auxquels on ne voudra peut-être plus jamais jouer.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
En effet, alors avant toute chose, je voulais commencer par reprendre la définition de ce que c'est un jeu. Donc un jeu, c'est une activité d'ordre physique ou mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire et à laquelle on s'adonne pour se divertir et en tirer un plaisir. Ceci dit, nous allons aujourd'hui parler de jeux qui ne répondent pas entièrement à cette définition. La notion de jeu non imposé, on pourra se poser la question de non imposé pour qui ? La notion de divertissement, pour qui et à quel prix ? La notion de plaisir, est-ce possible de prendre du plaisir à voir quelqu'un souffrir ou à souffrir soi-même ? Je pourrais continuer des heures face à toutes les questions que ces « jeux » entre guillemets soulèvent, mais soyons honnêtes, je n'ai pas des heures devant moi pour cette chronique. Donc je vous invite à taper dans votre barre de recherche « jeux dangereux et violents » et d'aller voir le site du ministère de l'Éducation nationale qui a fait un super document de prévention où vous pourrez trouver tous les sites et numéros utiles pour lutter contre ces jeux qui ne le sont pas. La suite de cette chronique présente des effets de violence. Ne vous obligez pas à écouter si vous ne le souhaitez pas. Ça vaut pour mes camarades ici présents. Si quelqu'un veut sortir de la pièce, n'hésitez pas. Ces jeux sont classés en 3 catégories. Les jeux non oxygénés, les jeux de violence et d'agression et les jeux de défi. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous pensez avoir déjà joué à une de ces catégories de jeux ?
Non, je pense pas.
Pas de défi, mais des trucs pas méchants.
Pas méchants ? Violence, agression ? Non.
Action, vérité, si. Mm-hmm. Un truc un peu chelou, ouais.
Et non oxygéné ?
J'ai toujours respiré.
En tout cas, tu respires toujours.
Ouais, non, je réfléchis, mais je pense pas.
Alors, ce qu'on entend par jeu non oxygéné, c'est ce type de jeu se pratique en groupe ou seul, à l'abri des regards des adultes. Dans la plupart des cas, il n'existe pas de rôle défini en tant que victime et agresseur, car la relation s'inverse. L'étrangleur devient l'étranglé. Cependant, certains jeunes rapportent avoir joué sous la contrainte. Les jeux non oxygénés sont par ailleurs souvent pratiqués par une hyperventilation obtenue par quelques flexions rapides des genoux, une grande inspiration. Les pouces d'un camarade ou un lien, un foulard si vous êtes seul, compriment le cou du partenaire afin de compresser la carotide au point de couper la circulation sanguine cérébrale. L'enfant peut aussi de lui-même bloquer sa respiration sous forme d'apnée. Les camarades doivent alors souvent réveiller le joueur de façon brutale et paniquent s'il ne se réveille pas. Voici les sensations ressenties. La première étape est une sensation de chaleur de la tête, bourdonnement, sifflement, éblouissement, hallucination. La deuxième étape, perte de conscience, complète et souvent des convulsions. Troisième étape, mort apparente avec cessation des mouvements respiratoires. Quatrième étape, une mort réelle. Le risque principal est bien entendu la mort, mais il y a aussi un risque de dépendance avec une recherche de sensations de plus en plus fortes. Le nom donné à ces jeux est doux, comme le jeu du foulard, le rêve bleu, 30 secondes de bonheur. Pour ma part, j'ai déjà participé à ça. Est-ce que vous avez souvenir de ça ou d'y avoir assisté ?
Non.
Non. Ça se pratique beaucoup dans les cours d'école et surtout en école élémentaire. Il y a beaucoup d'enfants qui le font aussi à l'abri des regards des adultes, comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire seul dans sa chambre, ce qui fait qu'il n'y a personne pour venir vous réveiller quand vous êtes à la troisième ou quatrième étape. Dans les jeux de violence et d'agression, la victime est souvent isolée, de petites tables, faible physiquement, et de stigmates corporels lui sont attribués. Couleur des cheveux, de la peau, le poids. Sa solitude est d'autant plus grande que les pères ne souhaitent pas s'associer à elle, de peur de perdre leur statut dans le groupe et de devenir eux-mêmes victimes. Les conséquences délétères sont très nombreuses et peuvent varier, du décrochage jusqu'à l'absentéisme scolaire. Les victimes d'un tel harcèlement souffrent souvent de manifestations anxieuses, de perte de l'estime de soi, voire de dépression. Notons que les conséquences ne se limitent pas à court terme, puisque les victimes et les agresseurs conservent des difficultés à l'âge adulte sur le plan psychologique et social. Je vous ai mis quelques exemples de jeux de violence et d'agression. Il y a le jeu de la mort subite. Un groupe d'enfants désigne le matin une couleur au hasard. L'enfant qui porte le plus de vêtements de cette couleur sera humilié et frappé tout le long de la journée. Il y a le jeu du carton rouge. Au signal donné, un groupe d'enfants frappe un élève désigné au hasard. Le plus souvent, il s'agit d'un enfant se trouvant à proximité du groupe. Des jeux qui se font plutôt en duo, c'est le jeu de la main chaude. Peut-être que vous avez déjà participé à ça finalement, vous me le direz après. Deux personnes se positionnent face à face et mettent leurs poings en opposition. Le premier joueur doit taper rapidement sur les poings de l'autre et s'il arrive, il peut recommencer. En revanche, si l'adversaire retire ses poings, c'est à lui de jouer. Le joueur doit taper de plus en plus fort. Il y a aussi le jeu de la croix, qu'on le sous-estime, mais qui finalement est beaucoup, beaucoup joué. Un joueur forme un rond avec ses doigts. Il le place au niveau de la ceinture d'un camarade. Celui-ci baisse les yeux pour regarder. Le premier trace une croix sur son épaule et lui donne un coup de poing sur l'épaule. Ça vous parle ?
Non, je suis contente que ça ne me parle pas.
T'as jamais joué à ça ?
Le jeu des poings, nous, c'était pas les poings, mais on devait se mettre des claques sur les
sur
mains.
Les doigts, ouais, sur le sur bout des doigts.
Sur le bout des doigts, ouais.
Ce qui fait déjà très mal.
Oui, c'était franchement pas agréable.
Ouais. Et c'est impressionnant qu'on s'inflige ça et puis qu'on prenne ça sous forme de jeu, quoi.
Ouais, c'est vraiment... c'est étrange. Je pense que c'est... J'imagine que les garçons peuvent le voir comme un moyen de prouver quelque chose aussi... supporter la douleur, je sais pas.
Peut-être, ouais.
Ouais, c'est pousser les limites du corps aussi. Quand l'enfant il se développe, puis surtout l'adolescent, il vient. Enfin, c'est... Surtout à l'adolescence, là on peut voir même dans sur les réseaux sociaux, il y a des trends autour de la mutilation et des choses comme ça.
Exactement.
Il y a quelque chose au niveau de l'évolution du corps, du développement, etc. C'est un peu reprendre le contrôle de son corps, sauf que là ça se fait en groupe, avec la pression de groupe.
C'est ça. Et de dépasser les limites et de montrer que on n'est pas le plus faible, on fait partie de quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Il y a aussi les jeux de défis. Quel que soit le caractère subi ou intentionnel de ces jeux, leurs conséquences peuvent être graves et diverses, comme hématomes, plaies, fractures, voire dans certains cas séquelles neurologiques. Ils peuvent aussi provoquer la mort si les fonctions vitales sont touchées. Certains enfants développent une phobie scolaire et des idées suicidaires, avec parfois un passage à l'acte. Voici quelques exemples de jeux. Le jeu du torero ou de l'autoroute. Il s'agit de traverser une voie ferrée à l'arrivée d'un train, avec parfois le défi de l'effleurer ou de traverser une autoroute en plein trafic. Ouais. C'est beau, hein, ça met un peu le frisson quand même. Hein. Il y a le car surfing, qui consiste à tenir debout sur le toit d'une voiture en mouvement. Ce jeu est responsable de graves traumatismes crâniens et forcément des décès. Il y a le jeu de la pièce ou du pouilleux massacreur. Un enfant fait tourner une pièce sur une table en direction d'un camarade qui doit lui la renvoyer. Dès lors que la pièce tombe, les camarades prennent la pièce et en frottent les phalanges du dernier joueur à avoir touché la pièce, jusqu'à ce qu'il y a saignement.
Parce que moi, je jouais au Pouilleux Massacreur, mais c'était un truc beaucoup moins violent. Ouais. Donc, c'est assez drôle. C'était un truc où il y avait plusieurs choses. Genre, on tapait sur la main, on pinçait, mais il n'y avait pas de sang, quoi.
Ouais.
C'est quand même étrange.
Ah, d'un coup, ça parle un peu. Hein.
On est des petits joueurs à Brest, j'ai l'impression.
Et il y a les challenges qui sont les plus répandus, comme les Ice Bucket Challenge. C'est un jeu positif à la base qui a été connu pour lever des fonds pour lutter contre la maladie de Crohn, mais qui, mal préparé, a parfois mal fini. Comme mort par hypothermie après avoir reçu 4 seaux de glace sur la tête. Effectivement, à la base, c'était un seul seau d'eau, mais à partir du moment où on corse un petit peu les limites. Il y a eu aussi mort par noyade après avoir sauté dans un lac avec un vélo. Il avait attaché son vélo à sa cheville et pour ne pas perdre le vélo, à la base c'était parti d'une bonne intention, hein, bah, il s'est fait emporter dans le fond de l'eau avec le poids de son vélo. Effectivement. Ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a toujours un copain qui est là pour filmer.
Ouais.
Et ça a été des défis qui ont été beaucoup diffusés en direct aussi. Et après, on reste un petit peu impuissant et quelle culpabilité on peut garder de tout ça derrière. Voilà. Maintenant, je vais vous diffuser un enregistrement qui parle du défi de la baleine bleue, qui a fait de nombreuses victimes, notamment en 2017. Normalement, le défi n'existe plus, mais une association qui s'appelle e-enfance fait tout de même de la prévention pour que cela ne recommence jamais.
La petite ville de Taïa est sous le choc. Un adolescent de 15 ans s'est donné la mort vendredi soir dans ce hangar. Pour ses proches, pas de doute, il a été poussé au suicide par le jeu Blue Whale Challenge.
Ce jeu exige de l'enfant qu'il mette une corde autour de son cou, qu'il soulève ses jambes par défi et qu'il supporte la douleur jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Quelques jours après qu'il a commencé à jouer à Blue Whale, sa sœur a remarqué des blessures sur son corps. Sa main était en sang.
Le Blue Whale Challenge, en français le challenge de la baleine bleue, un nom presque poétique pour un jeu très glauque, accessible via les réseaux sociaux. Il impose 50 défis, un par jour aux joueurs, visionner des films violents, se scarifier, jusqu'à l'ultime épreuve, le suicide. L'adolescent de Taïa serait le troisième jeune à mourir à cause de ce jeu dans la province de Sétif en une semaine. Un quatrième en a réchappé grâce aux médecins de l'hôpital d'Aïn Oulmen.
La première victime, c'était un garçon de 9 ans. Il est arrivé mort. Il venait de Salah Bay. La deuxième avait le même profil, un garçon du même âge. Il avait un tatouage d'une baleine sur le bras. Grâce à Dieu, on a pu sauver le troisième enfant. Il a 13 ans. Il est arrivé après une tentative de suicide. Il avait bu de l'essence.
Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce challenge, la baleine bleue ?
Non, pas du tout.
T'en as entendu parler
ouais. Oui, j'avais déjà entendu parler, oui.
Ouais. Ça a fait le tour du monde. Ça a été créé, si on peut l'appeler comme ça. Hein. Ça a été inventé en Russie. Et comme ça passait par les réseaux sociaux, forcément, ça a fait le tour du monde. Les victimes et puis les proies les plus faciles accessibles, forcément, c'était les enfants, les adolescents, les pré-ados et les jeunes adultes. Il y a quand même des jeunes adultes qui ont joué à ça. Le principe était d'avoir un parrain qui vous donnait 50 défis, un par jour. Si vous vouliez abandonner, vous ne pouvez pas parce que le parrain vous menaçait de vous retrouver et puis de finir le défi pour vous. Et tout était crescendo. Au début, c'était un petit peu tout doux, genre se dessiner une baleine. Alors là, on a entendu qu'il y avait se scarifier ou même se tatouer la baleine. Mais après, chaque parrain, c'était suivant un petit peu le vice hein, de chacun. Et le format anonyme, un petit peu de la distance, du fait qu'on ne voit pas la conséquence, m'a finalement poussé énormément d'ados. Alors, au suicide, hein, comme on a pu le dire. Mais beaucoup ont quand même arrêté, beaucoup sont finis en dépression. Voilà. En France, il y a visiblement, de ce que j'ai fait comme recherche, il n'y aurait pas eu jusqu'au suicide, mais il y a quand même eu pas mal d'enfants qui ont joué à ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi du phénomène de Jackass.
Ah oui, l'émission de télé, là.
Ouais.
Il y a des gens qui sont morts, non ?
Il y a des gens qui sont morts, ouais, à faire ça. C'était tout un groupe qui était visuellement, qui était télévisuellement très visible, du coup. Et qui se lançait des défis et d'aller le plus en plus loin. Ça allait à prendre le plus de smecta possible pour se filmer, avoir la diarrhée, jusqu'à effectivement.
Pardon, c'est un peu débile, ça
m'a
fait rire.
Ouais, non, mais voilà, ça part de ça. Et puis en fait, ça fait rire. Et puis après, c'est l'escalade de la violence. Il y a eu des bombes humaines, de savoir comment faire pour balancer quelqu'un le plus loin possible, le plus haut, et puis voir s'il y avait des séquelles. Et puis,
pourquoi c'est étonnant. Pourquoi cette envie de tester, d'aller plus loin de...
C'est beaucoup un phénomène de groupe. Et puis, on va pouvoir en parler. La motivation et le profil des joueurs, c'est la prise de risque qui peut être due à une vulnérabilité individuelle ou à l'envie d'appartenir à un groupe, ce qui est très important pour des enfants, adolescents ou des jeunes adultes. Pour de très grandes majorités de jeunes, la pratique de ces jeux ne répond pas à une fragilité psychique. Elle concerne surtout des enfants et des adolescents sains, sans difficultés psychologiques.
Ah oui.
ce qui est assez étonnant. On a plutôt étonnant, envie de dire que c'est des gens qui sont en détresse et des appels à l'aide. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup le phénomène de groupe et d'appartenance à ce groupe, l'entraînement, quoi.
Parce qu'au début, tu recherches un peu l'adrénaline et ça devient un peu comme une drogue, peut-être.
Ouais. Exactement.
Et tu sais plus comment arrêter parce que tu as la pression du groupe, effectivement.
Ouais. Et puis, comme tout se fait à l'écart des adultes aussi, avec la honte de pouvoir dire bon, bah, j'ai fait ça, que je sais plus comment arrêter.
Oui, c'est ça.
C'est pas un âge où on est à la recherche d'aide, on est à la recherche aussi de sa propre identité. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué.
Oui, et puis à ses parents aussi. Enfin, c'est ça, on s'identifie à ses pères, on s'identifie plus à ses parents aussi.
Exactement. Le phénomène d'émancipation, quoi.
Et c'est ça. Puis je pense que les réseaux sociaux rajoutent qu'un effet aussi sur l'effet groupe, où tu as l'impression que le groupe s'agrandit, puisqu'il va au-delà de l'écran presque aussi.
Exactement, ouais.
Complètement.
On est populaire.
Il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui t'attendent. Faut pas les décevoir.
C'est ça.
D'effet hormone, enfin, je sais plus, ce phéromone qu'on renvoie quand on a des j'aime sur un poste, quelque chose comme ça.
Mais peut-être avec des commentaires et du coup une vie sociale ou une apparence de vie sociale, quoi. Et peur que si on arrête ça, bah, tout le reste s'arrête et puis du coup ça devient vide et sans sensation, sans émotion, alors qu'on a été loin dans les émotions et les sensations.
Mais oui, complètement. Mais c'est marrant parce que c'est ce qu'elle disait dans ma chronique. J'ai parlé de Vanessa Lalo, la psychologue clinicienne qui est spécialiste des pratiques numériques. Et elle disait que les jeux vidéo, c'est aussi un moyen pour certains de gagner en estime de soi et de se lier à d'autres personnes. Et elle parle des communautés de joueurs, en fait, quand on joue en réseau. Je pense donc qu'on a un peu ce même effet-là, en fait.
Exactement. Donc en conclusion, moi j'avais envie de vous dire, bah, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Gardez la parole ouverte et libre. Et la semaine prochaine, je continuerai un petit peu sur la même ambiance en vous parlant des jeux à base d'alcool et de substances toxiques.
Ouais.
Cette fois, c'est pour de vrai. On arrête de parler avec violence et agressivité. On va parler doucement des actualités du jeu en ce moment avec la chronique de Gildouen Quadneuf.
Quadneuf ?
Eh bien, du 3 juin à 17h au 4 juin à 18h, participez aux 25 heures du jeu organisé par Zinc de Trèfle.
Youpi !
Pour cette quatrième édition, jeux de société à foison, des animations, des grands jeux, du jeu vidéo. Boissons et restauration maison sur place. Renseignements contact@maisondesjeux-nantes.org. Et c'est 14 rue Grande Biesse à Nantes.
Mais il fait des rimes. Mais regardez-moi ce présenteur...
Présentateur
Présentateur de qualité. Bon, bah écoutez les amis, on va se quitter. Ça va plus du tout. Voilà.
On va écouter l'énigme.
Ah mais oui, mais c'est
moi la réponse.
C'est moi la première.
La fin de l'énigme.
Alors, je vous la redis. Il est 7h du matin. Quelqu'un frappe à la porte. Derrière la porte se trouvent tes parents qui sont venus prendre le petit déjeuner. Dans ton frigo, il y a du pain, une bouteille de lait à moitié vide, une barquette de beurre et un pot de confiture neuf. Que vas-tu ouvrir en premier ?
La porte !
Non, c'est anti-jeu, c'est la porte.
Et Cyrielle l'avait dit avant.
Et ouais.
Bah moi perso, j'ouvre les yeux d'abord, mais en effet, c'était la porte la réponse.
Voilà.
Deux réponses acceptées.
Ouais, j'ai perdu
du temps. Cyrielle. Cyrielle, c'est ton premier point ?
Oui, s'il vous plaît.
Je suis trop fière de moi.
C'est la fin de l'énigme, mais c'est également la fin de l'émission. J'espère que vous viendrez, que vous nous écouterez nombreux la semaine,
le mois prochain,
le 11 juin, parce que ce sera notre dernière émission et cette dernière émission sera scandaleuse. On parlera, bon, je crois que vous l'avez compris parce que Brian l'a beaucoup répété.
On parlera du cul.
De sexe, d'alcool, de drogue. Tout en rapport avec les jeux de société, bien évidemment. C'est juste après la Gay Pride, alors retrouvez-nous tout frais, tout feu, tout flamme, le 11 juin. À bientôt.
Bon dimanche.
Bon dimanche, à bientôt. Bye.